Un nouveau numéro du Club de la Presse sur Canal FM. C'est un plaisir de vous retrouver toujours très nombreux à l'écoute de la 93.5 FM. Merci de nous recevoir depuis votre position. L'équipe technique de ce matin est composée de Michel Tomega à la mise en onde, Jiro Akucha à la mise en ligne. Radio Lumière Anero, Radio La Paix Atakpamé, Radio Daoul Bassar, Centrale FM Sokolé, Sama FM Nyantougou et Radio Courtoisie d'Apaon, c'est la liste de nos radios partenaires à travers lesquelles cette émission est suivie à l'intérieur du pays. Club de la Presse est aussi disponible en direct sur Canal FM, sur YouTube et sur Facebook. Le panel de ce jour est composé de Sylvestre Kokoubeni du journal La Manchette. Bonjour Sylvestre.
Célé, bonjour à toutes et à tous. Si tu le permets, une date et un événement.
Oui.
Aujourd'hui, ça fait... Nous sommes au 29 mars 2023. Mmh. 29 mars 2026. Ça fait 17 ans que le Togo a connu donc, l'éclipse solaire, l'éclipse totale. Et donc, c'est une date, quand même, un événement à rappeler.
Inoubliable.
Inoubliable. Malheureusement que la communication à l'époque n'avait quand même pas permis aux Togolais de vivre cet événement unique-là. Mmh. Et donc, il faut le rappeler. Surtout les décisions que nous prenons risquent quand même de nous rattraper.
Voilà. C'est important. Abbas Issaka du journal Magnan Libéré. Bonjour Abbas.
Bonjour Fousseni, bonjour à tous et à tous celles qui sont en train de nous écouter sur la radio Canal FM.
Dologne.
Il faut remarquer que 17 ans déjà, il y a des gens qui n'ont pas compris. Quand madame la ministre éclipse solaire
a la demandé ministre, à Kanyi Sokpo
Diallo,
à l'époque ministre de la Santé, je crois,
a demandé aux gens de fermer portes et fenêtres pour ne pas voir ce qui va se passer parce qu'ils auront les yeux cassés. Alors, on a commandé des lunettes anti-solaires pour que les gens puissent.
Notre micro a un petit problème. Je vais peut-être le revenir à vous. Alors, Gadiel Tionyadi du journal Santé Éducation. Bonjour. Oui, toujours le même problème.
Bonjour. Allô. Bonjour, Kseni. Bonjour à tous ceux que vous êtes.
Bon, ça ne va pas toujours.
Le temps qu'il puisse mieux se replacer, en fait, Abbas revenait sur le fait qu'il n'a pas compris, en attendant qu'il puisse quand même se replacer, qu'il n'a pas compris pourquoi est-ce que la ministre à l'époque, docteur Kanyi Sokpo Diallo, avait demandé aux Togolais de fermer portes et fenêtres. Alors c'était quand même un événement unique et la sensibilisation devait être faite en ce moment où cela devait permettre à, quand même aux Togolais, puisque c'est un événement, je ne suis pas sûr que nous verrons encore une éclipse totale donc avant de partir. Donc il n'a pas compris. Bon, maintenant qu'il est là, il faut continuer. Voilà.
Poursuivez.
Je disais que c'était malheureux qu'une dame ministre de la Santé qui devait permettre aux gens de connaître l'astrologie, l'histoire, et que nous avons demandé ensuite à la dénommée Madame Éclipse Solaire, qui a demandé à tout le monde de s'enfermer parce que l'éclipse solaire se passait en pleine journée. Et c'est une première qu'on devait vivre, c'est de l'histoire. On a demandé à tout le monde de fermer portes et fenêtres, même les boucher avec des pains pour qu'on ne puisse pas avoir les rayons même de ces équipes solaires. C'était malheureux. Comme Sylvestre l'a dit, c'est une histoire, on a manqué. Mais il y a les courageux qui sont sortis.
Moi, j'étais resté dehors jusqu'à la fin.
On est sortis, on a besoin. Alors qu'au même moment, on avait commandé également les lunettes, noires, là, anti-éclipse, pour que les gens puissent voir ce qui va se passer. Ça, c'est des événements qui se passent une fois dans le siècle, il faudrait permettre aux Togolais de sentir, de voir ce qui se passe. Parce que dans les autres pays, les gens sont sortis, on n'a pas eu cette peur-là. Mais cette dame, elle est là toujours. C'est Madame Kanyi Sokpo Diallo.
Docteur. Est-ce qu'on doit la blâmer, hein, puisque c'était un phénomène nouveau pour tout le monde?
Non. Oui, bonjour. Je pense que maintenant le micro est bon. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je pense que Sylvestre a amené vraiment une histoire. Et en tout cas, c'est important, c'est l'histoire du Togo. Moi, je me rappelle cette année, j'étais à Didogomé en famille, on s'était tous cachés, je veux dire. On s'est cachés dans la chambre. Moi, je n'ai pas eu le courage de sortir. En temps, j'étais sorti pour voir un peu, mais avec les enfants et tout autour, on s'était caché dans la chambre et toute la maison s'était cachée. Tout le quartier était vide, est-ce que vous voyez. Donc, vous demandiez tout à l'heure si on doit la blâmer. Je pense que cette décision prise n'était pas faite pour, en tout cas, pour empêcher les Togolais de suivre un phénomène assez extraordinaire, naturel. Mais je pense que c'est aussi, on a vu derrière des gens qui pouvaient aller voir ce phénomène à l'œil nu. Et les conséquences qui vont suivre après, je crois que la dame, elle a fait cela par une mauvaise idée derrière. Bon, l'histoire retient cela, mais je pense que, ça, en tout cas, c'est bien de se rappeler. Ça fait partie des pages de notre pays, le Togo.
D'accord. Merci, Gadiel. Nous avons un invité avec qui nous allons parler d'un sujet lié à la santé. Il sera présenté en temps opportun. Je suis Fousseni Saïbou à la modération. Voici le débat. Le journal Santé Éducation est dans les kiosques ce mercredi et comme il est de coutume, nous allons évoquer quelques sujets à la une et c'est Gadiel Tchouniadi qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue encore une fois Gadiel.
Merci, Ousseline.
D'accord. Le premier sujet qui nous intéresse ce matin concerne les maux de dents. Le journal titre « Soulager maux de dents, remède ».
Oui, vous savez, il y a de cela quelques jours, on a célébré la journée mondiale de la santé des dents. Et nous, à de telles occasions, on fait une parution spéciale. Oui, c'est une parution qui est faite avec deux de nos consultants qui sont des médecins chirurgiens dentistes, notamment docteur Odette Sikavi j'oublie un peu le nom. Oui, le nom.
D'accord.
Et puis l'autre docteur Tokofai Georges. C'est les deux qui nous ont aidés à faire cette parution. Et vous voyez que le nom de...
Voilà.
De...
Effectivement, docteur Odette Sikavi Fangbenyon.
Fangbenyon, voilà. Docteur Odette Sikavi Fangbenyon. Donc voilà, c'est les deux consultants qui nous ont aidés à faire cette parution. Vous savez, d'après un rapport de l'OMS, plus de la moitié de la population mondiale a des problèmes de dents. La santé bucco-dentaire n'est pas vraiment une réalité chez beaucoup de personnes. Or, plusieurs études le prouvent que une dent qui est malade, cela peut affecter tout l'organisme. Et la santé bucco-dentaire, ou bien une mauvaise hygiène des dents, cela peut accentuer un certain nombre de problèmes de santé, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et les études ont prouvé que cela peut conduire à un accouchement prématuré. Donc, c'est un fait assez grave. Et dans cette parution, nous revenons un peu sur la thématique de la santé bucco-dentaire avec l'interview de Dr. Afak Benyo et un certain nombre d'articles sur les maladies des dents. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, cet article dont vous venez de parler, c'est un article avec des recettes naturelles. Quand on a des douleurs de dents qui nous surprennent à un moment donné à la maison, la nuit ou bien le matin, des recettes grand-maman qu'il faut faire pour rapidement aller chez le dentiste. S'il vous plaît, les problèmes de dents, on les amène chez le spécialiste, le dentiste. C'est absolument important. Donc, dans cet article, il y a 6 recettes naturelles qu'on peut faire juste pour atténuer un temps soit peu les douleurs avant d'aller voir le spécialiste pour suivre des traitements.
D'accord. Alors, pour prévenir toutes les maladies liées à la dent, il y a des aliments qu'il faut consommer.
Oui, il y a des aliments, vous savez, c'est comme tous les organes de l'organisme, il y a des aliments préférentiels pour les dents aussi, c'est comme pour le cœur, on en a parlé, pour le cerveau, pour les muscles, pour les vaisseaux sanguins. Donc, les dents ont des aliments préférentiels. Et un des premiers aliments, c'est l'eau. L'eau plate. Hein? L'eau plate. Hein? Boire de l'eau, se rincer la bouche avec de l'eau. Cela entretient vraiment la santé bucco-dentaire. Donc, c'est important de boire, de ne pas avoir la bouche sèche. C'est absolument important. Et puis, là, il y a 8 aliments qui sont conseillés pour la santé dentaire.
D'accord. À retrouver dans le journal Santé Éducation.
Absolument.
Alors, une autre maladie des dents, c'est gencives. Les gencives qui saignent. hein, cause et traitement. C'est le titre d'un article.
Oui, là, c'est avec le docteur Jean Tokofaï qui nous parle d'une maladie des dents, les gencivites. Vous savez, quand vous avez les gencives qui saignent, c'est très mauvais. Hein. Mmh. Cela veut dire qu'il y a un problème au niveau des dents et il faut courir rapidement. Parce que d'ailleurs, les gencives qui saignent, qui sont enflées, qui font mal, cela peut être un signe des dents qui veulent sauter, qui veulent tomber. Donc, il faut rapidement aller voir le dentiste. Quand on a de telles choses qui durent 1, 2, 3 jours, il faut rapidement aller voir un dentiste. En tout cas, le spécialiste est revenu un peu sur les causes et les traitements, ce que eux, en tant que spécialistes, ils font pour rapidement résoudre le problème.
D'accord. Et puis, nous parlons aussi d'une autre initiative de santé-éducation qui n'est plus à présenter. Je vais parler de Mabest, le marché du bien-être et de la santé au Togo. Alors, Gadiel, c'est bientôt. Où en sommes-nous actuellement dans les préparatifs?
Nous sommes en plein pied dans les préparatifs. Ce matin, moi, je suis en tant que coordonnateur de ce projet, le marché du bien-être et de la santé. Pour dire que nous remercions tous ces promoteurs, tous ces acteurs au niveau du ministère de la Santé, au niveau de la société civile, des privés, qui se sont inscrits, on est débordé d'inscriptions, qui se sont inscrits pour être à ce marché. Mmh. Nous sommes aussi dans la mobilisation des moyens parce que, il faut le dire, nous n'avons pas encore atteint l'ardoise qu'on voudrait actuellement, et sauf qu'on court de gauche à droite. En tout cas, on est sûr que d'ici la semaine prochaine, de toutes les façons, ça va se faire. Tout est prévu du 6 au 16 avril, et une dizaine de jours où nous allons célébrer même la Journée mondiale de la santé sur le site. Donc, le message est clair. Beaucoup d'activités en matière de santé, de promotion de la santé seront faites, notamment les consultations médicales et les dépistages. Beaucoup d'expositions de maladies à haut impact sur la santé et des produits à haut impact sur la santé. Donc, un certain nombre d'activités, de services, des conférences publiques et des panels de santé seront animés. Donc, le rendez-vous est donné. Et
le lieu,
c'est au Palais des Congrès de Lomé. Donc, tout sera fait là-bas.
Déjà, il y a beaucoup de partenaires qui se sont déjà annoncés, notamment le CHU Campus. N'est-ce pas?
Oui, le CHU Campus est un des exposants. Hein, un des exposants, le CHU Campus, je veux dire, va se déplacer hein, pour une première fois sur un site pour opérer des activités de consultation, de prise en charge. Voilà, donc c'est une première. On devait avoir le directeur de cet établissement ici, mais il a été empêché en toute dernière minute. Donc, voilà. Il y a plusieurs autres services du ministère de la Santé qui seront là pour leurs services. Et puis, des centres privés. Et on connaît beaucoup d'exposants de produits d'aliments de santé. Et cette année, nous mettons l'accent sur les jeunes. Parce que nous savons que les jeunes ne pensent pas beaucoup à leur santé. On est jeunes, on mange tout ce qui nous tombe sur la main aujourd'hui. Les jeunes sont abonnés aux aliments transformés. Et au niveau de la division de suivant des maladies non transmissibles, on crie alerte sur le surpoids et l'obésité chez les enfants et chez les jeunes. Donc, c'est des thématiques dont on va parler. Et on invite les jeunes. On va installer même un espace jeune sur le site, pour entretenir les jeunes par rapport à leur santé.
D'accord. Merci, Gadiel. Vous restez avec nous.
Je vous en prie.
Nous n'avons pas fini de parler santé dans cette émission. Nous recevons notre invité, docteur Amadou Tho Kossi Senam Mamaouli. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous vous accueillons sur ce plateau dans le cadre de la semaine de chirurgie plastique et esthétique mammaire. D'abord, commencez à nous dire ce que c'est que la chirurgie plastique et esthétique mammaire.
Alors, la chirurgie plastique esthétique mammaire est une des disciplines hein, chirurgicales, donc en santé humaine, qui permet de corriger l'apparence des seins ou de les reconstruire. Donc, à travers cette spécialité, on peut remodeler le sein, donc corriger son apparence, ou on peut reconstruire carrément le sein, et j'expliquerai tout à l'heure, dans quel cadre est-ce qu'on peut être amené à faire de la reconstruction mammaire.
D'accord. Alors, la chirurgie plastique mammaire est-elle une chirurgie de confort ou seulement une chirurgie de nécessité?
Alors, c'est vrai qu'il y a le terme esthétique qui est collé à la plastique, donc on peut se dire, ah, ça c'est pour ceux qui ou celles qui ont envie de se faire belle. Mais il faut voir déjà quels sont les domaines d'intervention de cette discipline. Mmh. Et je m'en vais vous les citer. La chirurgie plastique esthétique mammaire va intervenir pour réduire les gros volumes de sein. Ce que nous appelons une hypertrophie mammaire. Mmh. Les volumes excessifs de sein deviennent un problème de santé pour celles qui les portent. Parce que ça fait une dizaine de kilos sur la poitrine. Ça donne des douleurs de dos, ça donne des douleurs au cou, ça donne des douleurs au niveau des côtes, sans compter que ça peut donner des infections sous les plis cutanés parce que le volume de sein est tellement excessif que la mobilisation est difficile et l'entretien donc des plis sous ma mère devient extrêmement compliqué. Mmh. Alors, il faut dire qu'il y a également un certain nombre de complications psychologiques qui accompagnent cette pathologie, comme le repli sur soi, parce que lorsque vous n'êtes pas content de votre apparence physique, parce qu'il y a une disproportion dans votre apparence physique, eh bien, vous perdez votre estime de soi. Et cela peut entraîner la dépression chez certaines personnes. Mmh. Donc, en intervenant pour corriger donc cette hypertrophie mammaire, vous voyez bien que cette chirurgie-là est une chirurgie de nécessité. Mmh. Alors, le deuxième domaine de compétence de cette discipline, c'est la correction de ce que nous appelons la ptose mammaire ou l'affaissement des seins. Les seins qui tombent complètement sont également des problèmes parce que là, également, il peut y avoir des problèmes d'entretien des plis sous mammaire. Je rappelle au passage que ce qui caractérise les anomalies mammaires, que ce soit le gros volume excessif, le volume excessif des seins, que ce soit la ptose mammaire ou que ce soit le troisième domaine d'intervention qui est l'hypotrophie, c'est-à-dire que c'est une quasi-absence de seins chez une femme qui a dépassé l'âge pubertaire, eh bien, il y a également des difficultés d'ordre social. Les difficultés à trouver des soutiens-gorge sur le marché pour celle qui a un volume excessif de seins, pour celle qui a une hypotrophie, elle est obligée de chercher des chiffons pour combler donc son déficit ou mettre des mousses dans son soutien-gorge, etc., pour se donner un petit volume de seins qui puisse lui être convenable pour pouvoir s'habiller et se présenter. Il y a des difficultés à aller, par exemple, à la piscine. Les problèmes on peut être amené dans la vie quotidienne, dans certaines circonstances, à s'exposer. Entre femmes, par exemple, dans les funérailles, c'est un exemple que je donne, au moment où tout le monde se met à l'aise lorsque vous avez ces anomalies, vous êtes obligé de vous cacher, etc. Donc, la chirurgie plastique esthétique mammaire va corriger toutes ces anomalies, que ce soit le gros volume, que ce soit le petit volume, que ce soit l'affaissement des seins, et ça devient vraiment une chirurgie de nécessité avant d'être une chirurgie de confort. Alors, il y a également cette anomalie qui s'appelle la gynécomastie chez l'homme. Ça s'est caractérisé par la poussée des seins chez les hommes, donc le développement de la glande mammaire chez les hommes. Il y a des hommes qui ont des seins et ça s'appelle la gynécomastie, et donc la chirurgie plastique va également régler ce problème, et c'est une chirurgie de nécessité là aussi, parce qu'un homme qui a des seins ça pose un problème. Déjà sur son psychisme par rapport aux autres, etc., etc. D'accord. Alors, dans la reconstruction mammaire, eh bien, la chirurgie plastique esthétique va redonner du sein à celle qui l'a perdu après le traitement d'un cancer du sein.
D'accord.
Et vous voyez que là aussi, c'est vraiment un problème de nécessité avant d'être un problème de confort ou d'esthétique.
D'accord. Alors, une équipe chirurgicale originale de la France sera à Lomé spécialement pour cette occasion. Quel est l'objectif de la semaine?
Alors, l'objectif de cette semaine, c'est d'abord de rapprocher des soins qui nécessitent de l'expertise et qui nécessitent un certain standard, c'est de les rapprocher de nos populations. Donc, c'est de favoriser donc l'accès à nos populations à ce type de chirurgie qui n'est pas encore extrêmement développée dans notre pays. Et c'est aussi de faire un partage d'expérience avec des équipes qui sont très entraînées et un transfert de compétences vers nos équipes locales qui ont besoin d'un renforcement de compétences dans ce domaine de façon spécifique.
Comment ça s'organise cette semaine?
Alors, il faut dire que la semaine se déroule du 13 au 21 avril. Et donc, le vendredi 14 avril est une journée qui va être consacrée à une grande consultation où nous allons recevoir tous ceux qui ont besoin ou se retrouvent dans les difficultés ou les anomalies que je viens d'énumérer. Et donc, ils pourront venir rencontrer nos spécialistes, partager leurs problèmes avec eux, se faire diagnostiquer. Et après cela, lorsque la nécessité ou l'indication se pose, établir donc une feuille de soins avec nos spécialistes. Donc, la semaine qui va commencer le 16 avril jusqu'au vendredi, le lundi au vendredi, va être consacré donc aux interventions chirurgicales chez ceux qui ont été préparés pour la semaine.
D'accord. Alors, pour avoir droit à ces services, combien faut-il débourser?
Alors, la question du coût est une question qui est toujours difficile, auquel il est difficile de répondre comme ça sur une antenne de radio, parce que vous convenez avec moi que la résolution des problèmes de santé ou la santé humaine, on va dire, ne s'apparente pas à un bien commercial auquel on met un prix dans un magasin. Quand vous faites les courses, vous prenez votre produit et puis vous retournez à la maison, c'est bien plus compliqué. Et la santé, elle est bien précieuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adresser aux structures compétentes lorsqu'on a des problèmes. Et on vous établit, donc, votre diagnostic. Et la prise en charge va dépendre du diagnostic qu'on va vous faire. C'est vrai qu'il y a une grille tarifaire qui est là, mais c'est en fonction de votre problème qu'on vous établit votre feuille de soins et qu'on vous dit votre feuille de soins va vous coûter tant. Donc, ce que nous conseillons, c'est que les gens s'adressent à la clinique pour pouvoir avoir des renseignements nécessaires. Surtout, consulter, parce que ce n'est que après la consultation qu'on peut vous dire voilà le traitement dont vous avez besoin et voilà tout ce qui rentre dans votre prise en charge. Et en ce moment, vous avez un devis que vous allez consulter.
D'accord. Merci, docteur. Pour terminer, pour vous contacter, est-ce qu'on peut avoir quelques numéros, quelques contacts?
Oui, bien entendu. Pour joindre la clinique, il faut appeler le 90 88 94 38 ou le 99 82 74 75. 90 88 94 38 ou 99 82 74 75.
D'accord. Alors, nos confrères ont des questions pour vous. Abbas Issaka.
Oui. Merci, docteur, pour les explications. La question, c'est de savoir, celles qui sont... Il y a des femmes qui ont des seins naturellement. Est-ce qu'elles sont concernées par la chirurgie ou corrigées? Parce qu'elles sont nées avec les seins et les fesses, elles sont nées avec. Il y a d'autres qui les transforment et qui subissent le poids après. Parce que ce n'est pas conforme à leur corpulence qu'il a été fabriqué. Quelle est, en fait, celles qui sont naturellement conçues comme ça, est-ce qu'elles sont concernées par leur
chirurgie? D'accord. Docteur?
Oui, alors, tout dépend de ce que vous appelez naturellement conçu. Il faut dire que le corps humain est une harmonie. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une harmonie du corps humain. Et donc, lorsqu'il y a une rupture dans cette harmonie, quel que soit l'endroit où s'opère cette rupture, il y a un problème. Voilà. Donc, lorsque nous revenons à la pathologie du sein ou des seins, par exemple, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que tous ceux qui sont gênés au quotidien par le volume de leur sein sont concernés déjà par cette spécialité. Maintenant, ça ne veut pas dire que le problème, dès lors que vous le posez, ça va s'appeler la correction par la chirurgie. Il faut déjà qu'ensemble avec la patiente, on puisse savoir quel est véritablement son problème. Est-ce que ce problème relève véritablement d'un cas chirurgical avant d'aller vers une chirurgie? Voilà un peu le processus. Bon, maintenant, quand vous dites né naturellement, on peut avoir une forme, comme on dit, on peut être bien en forme. On a la poitrine qui va avec. J'imagine que c'est ce que vous dites. On a peut-être les fesses qui vont avec. Alors, dès lors que vous n'avez pas une rupture dans l'harmonie de votre corps, il n'y a pas de problème. Le problème vient de ce que vous avez une rupture dans l'harmonie. Quand je parle du volume excessif des seins, je vous assure que ce n'est pas les seins qui débordent un peu des soutiens-gorge. Je vous parle véritablement de gros seins qui pèsent énormément. Nous avons déjà beaucoup de recul, au moins 5 ans de recul par rapport à cette activité. Nous l'avons commencé, nous avons été interrompus par la période Covid. Les premiers cas que nous avons eu à opérer en termes de réduction mammaire pour ceux qui sont gênés par leur volume de sein, nous en avons réduit jusqu'à 6 kilos. Et il en reste encore un joli paquet. Ouais. Donc, imaginez que vous avez 10 kilos accrochés à votre cou. Imaginez, 10 kilos accrochés à votre cou tous les jours. Vous pouvez voir ce que cela représente. Donc, pour me résumer, tous ceux qui sont gênés par leur volume de sein, ils ont besoin de consulter des spécialistes et il appartient aux spécialistes de donner un nom ensemble avec la patiente à son problème et d'établir sa feuille de soins.
D'accord. Alors, docteur, puisque... oui, Sylvestre.
Oui, en fait, je crois que la conclusion du docteur m'amène à poser une autre question. Après la correction, est-ce que parmi peut-être une centaine ou une vingtaine de cas, est-ce qu'il y a des conséquences plus tard qui obligent les patientes à revenir?
Docteur.
Alors, jusqu'à présent, nous n'avons pas été confrontés à des conséquences fâcheuses de ce type de chirurgie parce que les choses sont assez bien réglées. Bon, maintenant, quelles peuvent être, pas les conséquences, mais peut-être je vais reprendre la question sous cette forme. Étant donné qu'il y a un problème de satisfaction personnelle, est-ce que vous me direz si j'ai bien repris votre question. Est-ce que, étant donné que c'est un problème de satisfaction, est-ce qu'on peut réduire le volume de sein à une femme aujourd'hui et demain elle dit, bon, finalement, je ne suis pas content de mon volume de sein. Je ne sais pas si c'est de ça
dont
vous
parlez, non? Non,
c'est qu'elle lie à l'opération.
Après l'opération... deux ou trois ans après, il y a des conséquences dues peut-être à la chirurgie et elle est donc contrainte donc, de revenir pour qu'on puisse...
Une chirurgie mal réglée peut entraîner des conséquences.
Oui.
Une chirurgie bien réglée, généralement, règle le problème pour lequel la chirurgie a été pratiquée. Donc, tout est dans la manière dont la chirurgie a été faite.
Est-ce que vous avez
d'une manière générale,
un cas, par exemple?
Je vous dis que le recul que nous avons, il est de 7 ans à peu près. Donc le premier cas opéré, ont 7 ans derrière eux.
C'est
et je vous garantis que personne n'est encore revenu se plaindre de ceci ou de cela. C'est pour ça qu'il est important de poser la bonne indication de la chirurgie, la bonne indication, tous les actes que nous posons d'une manière générale en médecine humaine, que ce soit la simple prescription du paracétamol, en passant par l'injection IV que vous faites, les procédures sont réglées. Dès lors que vous respectez ces procédures, eh bien, il n'y a pas de conséquences dommageables pour votre santé. Mmh. Autrement, on ne pratiquerait pas de la chirurgie ou on ne soignerait pas les gens si les soins doivent apporter plus de problèmes que les problèmes pour lesquels ces soins ont été pratiqués.
D'accord. Merci, docteur.
Le cas que vous évoquez tout à l'heure, par rapport au fait que la personne n'est pas satisfaite de la forme qu'on a donnée à ses seins.
Alors, justement, c'est pour cela que je dis qu'une consultation de ce genre se déroule toujours avec la patiente elle-même.
De concert.
Voilà, la patiente elle-même. On lui explique d'abord, le problème qu'elle a, quelle est la solution qu'il faut apporter, quel est le volume qui doit correspondre à sa corpulence. Parce que vous savez, chez les femmes, les choses se déclinent en bonnet de soutien-gorge. Donc, c'est en fonction de tout cela que l'on regarde la taille qui doit être adaptée à votre corps et le problème réglé. Donc, quand tout cela est conduit de manière consensuelle avec la patiente, généralement, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais c'est l'occasion aussi pour moi de toucher du doigt une réalité, et donc le revers de la médaille lorsqu'on parle de la chirurgie esthétique d'une manière générale. Lorsque la chirurgie esthétique devient une chirurgie à tout va, où les gens disent « je veux de grosses fesses, demain, non, je veux de petites fesses, je veux de grosses lèvres, non, finalement, je veux de petites lèvres, je veux de gros seins, finalement, je n'en veux plus », alors, ça, c'est le revers qu'on peut attendre de la chirurgie esthétique lorsqu'elle est, elle est pratiquée de façon à contenter les gens et non pas forcément à régler de réels problèmes de santé. C'est en ce moment que des problèmes de ce genre peuvent survenir. D'accord. Mais lorsqu'on est dans le cadre d'une chirurgie qui vient pour régler des problèmes, eh bien, lorsque les problèmes sont réglés, les gens ont de la satisfaction.
D'accord. Docteur, pour refermer définitivement notre entretien, il y a un phénomène qui existait, mais qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Des jeunes filles qui voudraient avoir de gros seins ou de grosses fesses qui se font injecter ou qui prennent des produits qu'on vend sur le marché. Est-ce que c'est conseillé?
Alors, je dirais d'emblée que les problèmes parfois d'apparence peuvent cacher plutôt des problèmes psychologiques. Lorsqu'on n'est pas satisfait de soi. Et donc, il faut peser les indications de tout ce que l'on fait. Ouais, il faut peser les indications. Lorsque vous êtes dans une certaine forme de fantaisie, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec les réseaux sociaux, les gens fantasment beaucoup sur certains corps. Je vous donne un exemple. Je veux avoir des seins comme celui ou ceux de Kim Kardashian. Vous voyez, les jeunes sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont sur les chaînes de télé, et on a tendance à idéaliser un certain nombre de choses ou à avoir une autre vision qui déconnecte parfois de la réalité. Un autre exemple, et ça s'appelle une pathologie nouvelle qui commence à se développer, c'est le phénomène c'est du snapshot, comme on dit, c'est-à-dire que là, vous faites une photo et vous avez la possibilité de retoucher la photo pour lui donner l'apparence que vous voulez. Ça, c'est avec nos smartphones aujourd'hui que les gens peuvent faire ça. Donc, parfois, à force de pratiquer ce truc-là, vous arrivez à créer une autre image de vous que celle que vous avez en réalité. Et cela peut pousser certaines personnes à demander certaines formes de chirurgie esthétique pour pouvoir ressembler à l'image qu'ils se créent d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes à travers les smartphones.
D'accord.
Donc ça, c'est des travers. Hein, et nous sommes pas là pour encourager les travers, mais nous sommes là pour travailler à régler des problèmes de santé qui se posent véritablement aux gens.
Docteur Amadou Tan Kossi Senamaouli, merci d'être passé dans cette émission.
Je vous remercie de m'avoir reçu et merci à tous vos confrères pour l'intérêt que la question a suscité.
D'accord, à très bientôt.
Merci.
Alors nous poursuivons sur ce plateau, nous parlons santé toujours, notamment avec le fonds Covid. Oui, avec le fonds Covid, des organisations de la société civile se sont saisies du dossier et porte l'affaire en justice. Dans le numéro 244 de La Manchette, édition de ce jour, on lit « Fonds Covid, 12 OSC ont porté plainte contre X ». Alors, Sylvestre Kokoubeni, pour élucider cette affaire, le Parlement a joué son rôle en écoutant les différents acteurs. Les ministres concernés ont fait leur part également en s'expliquant sur les différentes zones d'ombre. Et c'est le tour aujourd'hui des organisations de la société civile de saisir la justice. Cette affaire est loin d'être terminée, on dirait.
Oui, oui, c'est ce qu'on peut dire, vu quand même les rebondissements, si on peut le dire ainsi, parce que lorsque vous voyez la déclaration donc, des OSC, des organisations de la société civile togolaise, ils disent clairement qu'ils n'ont pas été satisfaits par le communiqué donc, du gouvernement à date du 9 février, je crois, et le déplacement donc d'une délégation ministérielle au Parlement où le problème a été également soulevé avec les déclarations, les explications donc des uns et des autres. Ils disent qu'ils ne sont pas convaincus de cela. Ils veulent véritablement que lumière soit faite sur la gestion donc des fonds Covid. Dont le point de départ a été donné par la Cour des comptes après donc les auditions avec les ministres et autres. Donc ils ont déposé plainte le 22 mars dernier, demandant à ce que le procureur puisse quand même se saisir donc du dossier et élucider. Donc ils ont porté plainte contre X. Parce que pour l'instant, si vous prenez le document donc de la Cour des comptes, personne n'a été énormément cité comme étant peut-être auteur de malversation, de fraude. Nul n'a été cité énormément. Donc ils estiment que maintenant c'est l'occasion de porter plainte contre IS, puisqu'ils estiment que la gestion n'a pas été faite dans les règles de l'art. Et le dossier est devant donc les tribunaux. On verra comment est-ce que cela va évoluer et puis après on avisera. Donc c'est le 12 organisations comme vous venez de le dire patronnées par l'association Veille économique donc de l'économiste Thomas Koumou. Donc c'est lui-même, c'est Thomas Koumou qui a déposé donc la plainte. Si vous prenez donc notre parution de ce matin, vous verrez d'ailleurs une image de lui donc avec la plainte. Donc voilà. On verra ce qu'il en sera dans les prochains jours et on avisera, comme je l'ai dit tout à l'heure.
D'accord. Abbas Issaka, est-ce que cette plainte déposée par les organisations de la société civile a la chance d'aboutir, hein, quand on sait que, même au sommet de l'État, des faits de malversation n'ont pas été confirmés?
Non, il appartient à la justice de juger de l'opportunité de la réception de cette plainte, parce que nous sommes dans un état de droit ou un apprentissage de l'état de droit. Et toute personne qui ne se sent pas satisfaite d'une situation peut saisir la justice. Et c'est ce que les 12 organisations de la société civile ont fait en déposant une plainte contre X. Ce qui veut dire qu'il y a une polémique à leur niveau. Ils ne sont pas satisfaits des explications données par le gouvernement par rapport à à ce rapport de la Cour des comptes. Ce qui veut dire qu'il appartient à la justice d'aller s'expliquer, d'aller dire leurs craintes et leurs instatifications par rapport à ce qui s'est passé sur ce rapport. La justice va juger de l'opportunité de prendre cette plainte ou non. Donc pour le moment, on attend de voir la réaction de la justice du moment où la plainte est déjà déposée.
D'accord.
On ne peut pas tout de suite affirmer ou infirmer pour dire que la plainte sera reçue ou pas.
D'accord.
Donc on attend de voir la réaction de la justice, parce que tout le monde a le droit de le faire, et de poser la plainte.
D'accord.
Et on voit que ce sont ces organisations qui sont en train d'appeler à une manifestation le 1er avril prochain, par rapport toujours, pour rendre compte aussi de ce rapport, pour dire qu'elles ne sont pas satisfaites. Donc, on attend la suite qui sera donnée à cette plainte.
D'accord. Alors, puisque nous parlons de justice, c'était au départ des rumeurs, mais l'information est confirmée par certains médias nationaux et internationaux. Kwacha Nyasimbe, l'ancien ministre de la Défense, a bien quitté sa prison du Togo pour le Gabon le jeudi 23 mars dernier à bord d'un vol spécial. Cependant, les raisons de ce départ restent encore floues pour certains, malgré la version officielle rapportée par les médias qui dit que M. Nyasimbe est parti pour des soins. Voilà. Dans l'opinion, certains évoquent plutôt une déportation et d'autres une libération. La Lanterne titre un flou autour de l'évacuation de Kwacha Nyasimbe. Kwacha Nyasimbe à Libreville au Gabon titre le triangle des enjeux, deux raisons fondamentales en faveur de son évacuation. Le journal La Manchette titre Kwacha au Gabon quitte des officiers Ati et Dantema. Alors Sylvestre Kokoubeni, évacuation sanitaire, déportation ou libération? Est-ce que vous avez une petite idée sur la vraie raison du départ de Kwacha Nyasimbe au Gabon?
Non, puisque aujourd'hui, là, on n'a pas une version officielle. Hein, c'est vrai que lorsque vous voyez dans les journaux, chacun y va donc de son commentaire ou de ses sources d'information. Mais aujourd'hui, tel que vous venez donc de le rappeler, il y a certains qui parlent donc de déportation, il y a certains qui parlent donc des îles forcées, il y a d'autres qui parlent donc d'évacuation sanitaire. Et tout cela reste donc confirmé par l'administration togolaise, ou du moins par le gouvernement togolais, puisque officiellement, tout ce que nous savons, c'est que Kwacha est détenu donc à la prison civile de Lomé, où il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle liée à cette affaire d'atteinte donc à la sécurité de l'État. Donc depuis 14 ans, je crois, puisqu'il a été condamné en 2011, il a été arrêté en 2009. Oui, condamné donc en 2011, en septembre 2011. Donc donc selon les informations, il est donc au Gabon, en terre gabonaise. Et donc nous sommes beaucoup plus appesantis sur les deux autres. Hein, les deux autres ou les co-détenus donc de Kwacha Nyasimbe, puisque ils étaient trois qui restaient dans cette affaire donc d'atteinte ou de coup d'État ou de complot contre la sécurité de l'État. Et donc il était avec le commandant Ati Abi et puis le capitaine Casimir Dantema Kokoucha. Donc c'était les trois qui restaient. Maintenant nous sommes d'ici. On a trouvé au moins une porte donc de sortie à Kwacha Nyasimbe, un quid donc des autres officiers, des deux autres officiers, puisque le capitaine Dantema et le commandant Ati aussi a été condamné à 20 ans de prison au même titre donc que Kwacha, et donc ils étaient donc les trois. Donc si on a trouvé une porte de sortie à l'un, pourquoi ne pas également penser à ces deux autres là? Donc nous ne plaidons que une clémence donc du chef de l'État, puisque si c'est pour les punir 14 ans, je crois qu'ils devaient au moins suffisamment comprendre donc leur erreur, et puisque depuis des années, il y a certains qui demandent même ouvertement la grâce présidentielle. Donc si le chef de l'État peut avoir une clémence également donc de procéder donc à l'élargissement de ces deux, afin qu'ils puissent quand même retrouver leur famille, puisque manquer 14 années donc sans voir sa famille, je crois que c'est un poids lourd véritablement pour eux. Donc nous demandons que la clémence du chef de l'État, sa grâce présidentielle, puisque il a quand même constitutionnellement, il a cette prérogative là, donc ce secret là, donc de prendre une grâce présidentielle et donc de les libérer. Donc voilà.
D'accord. Alors, rappelons qu'il souffre, je veux parler de Kwacha Nyasimbe, il souffre ou souffrait de graves problèmes de circulation qui nécessitaient une opération. Il a d'ailleurs passé, selon des sources non officielles, un bon moment au pavillon militaire. Alors, Abba Sisaka, quelle que soit la raison de son départ pour le Gabon, est-ce que pour Kwacha Nyasimbe, ce ne serait pas un soulagement? Si mes calculs sont bons, il lui reste au moins 6 années avant la fin de sa peine.
Oui, effectivement, il lui reste 6 ans. Quelles que soient les raisons, nous on dit qu'on félicite les autorités pour l'avoir fait envoyer au Gabon pour des soins, parce que ce n'est pas la première fois qu'on demande l'évacuation de Kwacha Nyasimbe. Mmh. En temps, les journaux, les médias ont parlé sur le fait qu'il devait être amputé et que beaucoup, même les avocats, ont demandé qu'il soit évacué et être soigné à l'extérieur du pays, puisque on ne peut pas dire que c'est une déportation. Pour être en déportation, moi, je ne suis pas dans cette logique, ou bien pour être en exil forcé, il faut avoir quelques situations. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que Kwacha Nyasimbe est sérieusement malade. Et il était même interné au pavillon militaire pour des soins. Et quand, entre-temps, beaucoup ont dit, sollicitaient même la grâce présidentielle, même auprès de choses, il y a les avocats qui ont déposé la grâce, la demande de grâce présidentielle pour qu'il soit aussi mis en liberté. Ce n'est pas, si aujourd'hui le chef de l'État ou bien les autorités ont décidé de l'envoyer au Gabon pour se faire soigner, il faut saluer cette situation, parce que nul ne peut rester là à voir un citoyen souffrir, être emprisonné, souffrir, avoir des maladies et qu'on les conserve. Il faut reconnaître également que ce n'est pas la première fois qu'on évacue les prisonniers qui sont malades. Dans cette situation, il y avait le général Tidjani Paix à son âme, qui souffrait également sérieusement à la prison, et qu'on a ordonné son évacuation en Europe pour se faire soigner. Donc ce n'est pas une première fois. Mais tel que le dit Sylvestre tout à l'heure, il y a deux autres, qui est, je crois, à Sokodé, à la prison de Sokodé. Il y a encore un autre qui est vers Mango Dapan.
Le capitaine.
Donc si aussi on peut avoir au moins la sollicitude, la sollicitation du chef de l'État pour qu'il puisse le faire, puisque déjà, lorsque vous êtes condamné à une peine 20 ans de prison et que vous arrivez à faire au moins la moitié ou bien les trois quarts de votre peine, au moins vous allez avoir droit à une liberté. Aujourd'hui, moi, je salue sincèrement et sérieusement ce qui s'est passé avec l'évacuation de Kwacha Nyasimbe. Il va pouvoir se faire soigner et on lui souhaite beaucoup de santé pour qu'il puisse nous revenir dans de bonnes conditions.
D'accord. Alors, comme la marchette, la Svito s'interroge sur le sort des co-accusés de Kwacha Nyasimbe, à savoir Ati Abi et Dontema Kokucha, et aussi du sort des autres prisonniers politiques. L'association salue, je cite, la fin d'une détention arbitraire et invite le chef de l'État à étendre cette action aux autres prisonniers politiques. Fin de citation. Alors, Sylvestre, est-ce que ce départ de Kwacha Nyasimbe de la prison civile de Lomé pourrait être un motif pour les autres détenus politiques d'espérer une prochaine libération?
D'espérer, je dis tout de suite non, puisque pour l'instant, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas les mobiles ou sinon la raison réelle qui a donc pesé dans la balance afin que Kwacha soit hors du pays. Si c'est en fonction peut-être de cette raison que nous pourrions éventuellement donc apprécier. Ainsi, on peut également évoquer la même raison pour procéder donc à l'élargissement donc des autres prisonniers politiques que nous avons. Prisonniers politiques, puisque aujourd'hui aussi entre le gouvernement et la société civile, on ne s'accorde pas sur le thème, puisque le ministre Trimois disait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, mais les partis politiques, surtout les partis d'opposition et la société civile estiment que ce sont des prisonniers politiques, d'autant plus que tout homme qui pose des actions ou allant donc dans le sens politique ou des actions qui ont pour relent politique, et c'est dans ce cadre qu'ils ont été arrêtés. Donc ça veut dire qu'ils sont donc des prisonniers politiques. Aujourd'hui, nous avons l'ancien ministre de la Communication, Jimo Oré, qui est là. Nous avons le jeune activiste politique togolais, Jean-Paul Omoulou, qui est là. Nous avons d'autres personnes qui sont là. Et même lorsque vous prenez donc l'association qui lutte pour la libération des détenus politiques, je crois une association que dirige
vous parlez d'Assivito?
Non, pas Assivito. Je crois que le nom va me revenir. Donc, Claude Amégavi, voilà. Claude Amégavi, donc, je crois que c'est une commission de lutte pour la libération donc, des prisonniers politiques. Donc, eux, ils citaient même ceux qui ont été arrêtés dans le cadre donc, de l'affaire de Tiger Revolution. Tiger Revolution. Ils mettent même ces jeunes-là qui ont été arrêtés et tout, dans le cadre donc des prisonniers politiques, et demandent donc à ce qu'on puisse les libérer. Mais du côté donc du pouvoir, on parle donc de, on dit qu'ils ne sont pas quand même des détenus politiques, mais des détenus de droit commun et tout. Donc chacun joue un peu avec le terme. Mais ce que nous avons constaté, si vous le permettez, donc puisque nous en parlons aujourd'hui avec le rapport donc d'Amnesty International, oui. Il y a aussi un détenu qui est là aujourd'hui à la prison civile de Lomé, le jeune Irlandais d'origine togolaise, Aziz Goma, Abdulaziz Goma, qui est là aujourd'hui pendant des années, qui a été arrêté parce que lui l'estimait, il a aidé certains jeunes qui veulent manifester, donc il lui a donné juste des déplacements, mais on l'a pris comme ceux qui veulent déstabiliser donc les institutions de la République togolaise. Et donc lorsque vous voyez ce rapport d'Amnesty International, il est quand même demandé au Togo donc de procéder à son élargissement, parce que Amnesty considère que c'est un défenseur des droits de l'homme et donc que le Togo ne doit pas quand même l'appréhender, le garder pour toutes ces années. Mais le gouvernement togolais réplique en disant que non, ce sont des gens qui veulent déstabiliser l'institution de la République, c'est pourquoi donc il est gardé. Et lorsque vous prenez ce rapport, il y a d'autres et choses qui ont été citées comme violation donc des droits humains au Togo en ce qui concerne donc la liberté d'expression, la liberté de presse, les détentions arbitraires et arrestations, et tout ça est cité donc dans ce rapport que nous avons quand même repris. Nous avons quand même pris quelques extraits
que vous pouvez retrouver dans la parution de ce mandat. Voilà, la manchette. Alors, nous passons à un autre sujet. Tout le gouvernement était à Kwalimé la fin de la semaine dernière pour un séminaire gouvernemental au cours duquel le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale a été présenté. On retient une satisfaction exprimée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a exhorté l'équipe gouvernementale à faire davantage. Togo Matin titre « Séminaire gouvernemental, Faure Gnassingbé mobilise davantage l'équipe gouvernementale ». L'exécutif en séminaire titre Le Libéral, des directives fermes pour la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Et puis Le Magnan Libéré qui titre Kwalimé 1 et 2 en passant par Kara, les actions prioritaires de la feuille de route passées au peigne fin. Alors Abbas Issaka, nous avons tous suivi le compte-rendu de la rencontre de Kwalimé et tout se passe bien apparemment dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale.
Non, oui, bon, apparemment, oui, mais non, parce que si ça se passait bien, ça fait, je crois, le troisième étudiant, ce séminaire-là, qui est organisé. Parce que ça a commencé avec Kara, où on a vu qu'il y a eu des points de projet qui ont été discutés, puisque quand vous prenez la feuille de route gouvernementale, elle est subdivisée en trois points stratégiques et à 42 projets. Et sur ces 42 projets, chaque ministre à sa nomination a eu une feuille de route qu'il a signée à exécuter. Et nous avons vu ce qui s'est passé à Kara. On avait parlé des infrastructures, de la digitalisation du port autonome de Lomé, de la compétitivité au niveau des entreprises privées et du partenariat public-privé. Et ça a continué. Il y avait le séminaire de Palimé par après aussi, qui a fait le point de la situation pour voir si ça a été exécuté. Aujourd'hui, le troisième séminaire à Palimé, on a également fait le point de ces séminaires-là, de ces projets-là qui ont été discutés. Est-ce que chaque ministre a accepté, a pu exécuter ces projets-là qui lui sont confiés? Il y a déjà 3 ans. Il reste 2 ans parce que c'est une feuille de route gouvernemental qui s'étale de 2020 à 2025. Et il faut faire vite, accélérer ce projet, c'est ce que le chef de l'État a demandé. Il y a satisfaction, mais il faut accélérer vite pour que 2025 arrive. Parce que quand vous prenez ces ministères, il y a certains qui sont actifs sur le terrain.
D'accord.
il y a d'autres noms que vous allez croire que ces ministres-là n'existent pas. Et j'ai dit que peut-être que la descente la fois dernière sur le terrain du chef de l'État au niveau, par rapport au gouvernement et aux forats qui sont organisés avec les acteurs, le chef de l'État s'est rendu compte de certaines situations.
D'accord.
Par rapport à des projets qui ne sont pas exécutés et qui ont été mis devant le chef de l'État, par les paysans, même, les agriculteurs même, qui disent que tel projet n'a pas été exécuté.
Mmh.
Et le chef de l'État a eu à indexer directement ces ministres-là. Ces genres de discussions ont eu lieu au niveau de Palémé. C'est pour cela que le chef de l'État dit qu'il faut mettre l'accélérateur, il faut accélérer, mettre ces projets-là en action avant que 2025 n'arrive. Parce que quand vous allez voir certaines lassitudes au niveau des ministères, et au même moment, vous allez voir d'autres en activité.
Ouais.
Quand vous prenez, normalement, on devait nous faire le point de la situation. Est-ce que depuis Kara, Kara, Palmé 2, on dit en 3 ans, là, qu'est-ce qui a été fait et retenu? Bon, on ne l'a pas encore fait, mais on dit, on n'a qu'à accélérer. C'est que c'est sur le terrain qu'on voit que certaines actions ont été posées par rapport à certains projets de l'électrification au niveau de l'agriculture aussi. On voit que ça avance au niveau de l'eau également, ça est en train d'avancer. Au niveau de la digitalisation aussi, on voit que les points sont en train d'avancer. Au niveau du port autonome de l'Omé, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Donc, tel que ça est, nous, c'est nous-mêmes qui constatons sur le terrain. Je ne sais pas si au niveau de ce séminaire-là, les points-là sont faits pour qu'on relève les difficultés. Parce que quand on parle de séminaire, c'est pour faire le point et le bilan des difficultés qui sont survenues pour qu'on puisse les corriger.
D'accord.
Mais si c'est à ça, c'était, je pense que ça, on ne peut pas continuer comme ça avec des ministres qui ne sont pas actifs.
D'accord. Alors, Sylvestre?
Non, moi je crois que le réel problème du Togo, c'est que je le disais il y a quelques semaines, le problème du Togo est profond en réalité. C'est-à-dire que l'impression aussi, c'est le constat qui se dégage partout, c'est que nos dirigeants ont tendance donc à célébrer les promesses que les réalisations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit bientôt nous allons, mais finalement, à la fin, on ne voit rien. Hein, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit avec tous les projets que nous avons eus ici, la PUDC, SCAP, PND, il y en a tellement donc de projets que nous avons connus ici au Togo, mais cela ne donne pas le résultat escompté, parce que la population continue toujours pas crier. Hein. Vous avez vu qu'au lendemain donc du dernier discours du chef de l'État, où il demandait, même bien avant, entre-temps, le chef de l'État demandait donc au ministre d'être à l'écoute donc des populations. Et après, il disait qu'il faudrait que nul ne soit laissé de côté. Mais après, des ministres ont circulé sur les radios, sur les médias. Ils ont promis une batterie de mesures aux Togolais. Hein, mais depuis là, on voit rien venir. Hein, toutes ces batteries de mesures, on voit rien venir. Et le Togolais qui mange aujourd'hui 3 fois par jour, ça devient un luxe. Vous voyez, aujourd'hui, manger au Togo 3 fois par jour devient un luxe. Si bien même qu'un candidat aux dernières élections présidentielles a mis dans son programme, dans son projet, que je ferai que les Togolais mangent 3 fois par jour. Vous voyez, c'est comme si nous sommes aujourd'hui en train donc d'idéaliser, c'est-à-dire manger 3 fois par jour aujourd'hui, ça devient luxe, un idéal à atteindre, si bien que quelqu'un a voulu même le mettre dans son projet de société.
Il a même mis,
hein, je crois que c'est Sauterre qui l'a mis dans son projet de société, avec lui, les Togolais doivent manger 3 fois par jour. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous voyez, nous avons quand même ce privilège-là d'être au contact de la population, pour ne pas dire d'être même de la population au contact du peuple, c'est des cris partout. Voyez-vous, c'est des cris. Avant, on tenait à peine avec la COVID, la période covidale, nous sommes, c'est comme si nous sommes maintenant pratiquement sur les rotules. Hein? Et ceux qui sont là et qui doivent soulager un peu les Togolais, non, c'est après, c'est des séminaires, on dit, il faut aller vite. Il faut aller vite sur quoi? Sur des choses qui sont souvent promises et qui n'ont jamais été réalisées, ou qui ne sont pas réalisées. Voyez-vous, donc, il faudrait véritablement du concret, puisque ce n'est pas la première fois que le chef de l'État dit qu'il faut aller vite. Même au lendemain de son élection en 2020, le gouvernement qui était là, le gouvernement de Kwame Selon-Klassou, docteur Kwame Selon-Klassou, il demandait au ministre d'être proactif. C'est lui qui l'a dit, il faut être proactif. Maintenant, si après 3 ans, on revient dire la même chose à un nouveau gouvernement, on leur dit il faut aller vite sur quoi? Vous voyez donc, ce sont quand même des éléments, il faut des véritables. Le tout là veut véritablement du concret. Quoi. Maintenant, nous sommes devenus des Thomas. On veut voir avant de croire.
D'accord. Merci à vous tous. Nous marquons une pause commerciale et on revient. 93.5. L'heure est arrivée de recevoir les auditeurs. Déjà, un auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour, monsieur.
Bonjour.
C'est monsieur Antoine de Dagouet.
Monsieur Antoine, on vous écoute.
Je ne vous ai pas écouté le début, mais je ne sais pas si vous avez abordé un nouveau sport là.
Non, on n'a pas abordé le sujet.
Bon, je vais profiter pour annoncer une petite nouvelle, un secret au ministre des Sports. Chez nous, en pays Cavier, quand vous rentrez au niveau d'une maison, c'est-à-dire à l'entrée de la maison, vous allez voir un baobab. Chez nous, en pays Cavier. Mais si vous rentrez, vous connaissez bien le terrain de Kégué, vous allez voir qu'à l'entrée, vous allez voir un baobab là-bas. Vrai ou faux?
Oui.
Voilà. Donc, demandez-vous à savoir pourquoi le président Yadema a laissé ça. Demandez-vous à savoir pourquoi ceux qui ont fait le terrain ont laissé ça. Donc, ça veut dire que actuellement là, depuis là, j'ai toujours le secret là de vous dire, mais je ne le dis pas. Renseignez-vous à savoir pourquoi on a laissé le baobab là. Le baobab là, un secret. Que vous ne voulez pas incliner ce baobab ne veut pas vous donner la chance. Ça, il faut que je vous dise la réalité. Je suis un petit, je vois. Ceux qui voient doivent vous savoir. C'est pas un baobab qui est resté là-bas parce que c'est l'arbre, il faut qu'on va se reposer sur, en bas. Non. C'est faux.
D'accord.
Il y a un problème de temps là-bas. Le petit, je connaissais le numéro du ministre du sport, je vais la dire. Elle est cavière. Elle doit savoir ce qu'on appelle Telou. Telou, en baobab, Telou. Elle doit savoir. Ceux qui appartiennent le terrain de Kégué, ils n'ont qu'à aller les voir et venir. C'est en 15 000 seulement, on prend pour faire les cérémonies là-bas et ça passe. Elle voit que le Togo va aller à la canne là, Inch'Allah.
D'accord, merci beaucoup. Allô? Allô?
Allô, bonsoir.
Bonjour, monsieur.
Monsieur Gadou.
Monsieur Gadou, on vous écoute.
Une question au plateau.
Oui.
Avant de quitter le plateau, donnez-nous une solution pour le sport. Sinon, tout le monde est découragé. Mieux vaut abandonner. Merci.
D'accord, merci à vous. Un autre auditeur, allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est monsieur?
Oui, c'est Sylvain.
Allô, on vous écoute.
Oui, c'est Sylvain.
Sylvain, on vous écoute.
Oui, merci. Je salue les invités. Bon, moi, je voudrais dire, le journaliste a déjà dit ça, nous, on veut célébrer des réalisations. On nous a inauguré des choses ici en grand pompe. Les centrales sont inaugurées après 3 jours, on ne sent rien. Ici, le chef de l'État dit qu'il faut aller vite. C'est une flatterie. On veut célébrer des réalisations. Des promesses, on en a eu dans ce pays. Et pour le sport, franchement, ce vieux qui est sur les réseaux là, on ne peut pas s'approcher de lui pour lui demander ce qu'il veut. On dit, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. S'approcher du monsieur pour voir ce qui en est. Il se sent tué et puis le vieux fait son faro-faro sur le réseau. Franchement, le football, c'est le seul qui peut nous garantir la joie, mais voilà, voilà, on est complètement dessus.
D'accord. Merci, monsieur Sylvain. Allô? Allô? Ah, allô?
Il faut baisser. Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Ici. Ah, ben, madame, ici, on vous écoute.
Je ne voudrais pas suivre, mais je sais que vous avez parlé du sport, non?
Bon, on n'a pas parlé, mais vous pouvez aller quand même.
Vous avez parlé du sport, du football, un truc comme ça, non?
Non, on n'a pas parlé du sport aujourd'hui.
Du sport, mais les gens en ont parlé tout à l'heure.
Oui, effectivement, effectivement.
Voilà, ça, c'est géré aussi par des soldats, non? Ça ne peut pas aller, rien ne peut aller, puisque tout est phagocyté par les soldats. Ils sont et dans les casernes, et dans la vie civile. Ça ne peut pas aller. de ces gouvernements. Rien ne peut aller. Et la personne qui vient de passer, il a parlé d'une inauguration. Tout ça là, les gens ont tout traîné au pouvoir. Il faut alterner, il faut trouver une formule pour alterner, pour faire décoller ce pays. Voilà, c'est ce qu'il faut. Rien ne peut marcher avec le même régime. Hein, que rien n'effraie. Quand tu traînes trop là au pouvoir, là, rien ne peut t'effrayer. Puisque tu es assis, tu règnes. Voilà.
Merci.
J'ai tenu à mettre mon grain de sel aussi.
D'accord. Merci, madame, ici. Allô? Allô?
Ouais, bonjour.
Bonjour.
C'est comment monsieur. Vous allez?
Nous allons bien. C'est monsieur?
C'est l'évangéliste Senghor. Hein.
D'accord. On vous écoute.
Là, je dois m'intéresser un peu du sport. Vous savez, mon frère, quand un pays est malade, donc on le dit, quand une nation est malade, il faut s'attendre à tout. Aujourd'hui, le football qui est devenu une joie pour tous les pays du monde entier, où les gens se... Vous savez, aujourd'hui, le football, c'est de l'argent, hein, c'est l'or, après l'or, là, c'est le football. Mais pourquoi au Togo, où sur tous les plans, quand on prend quelque chose, ça ne marche pas? J'interpelle le chef de l'État. J'interpelle le chef de l'État parce qu'il est le papa de la maison. Il a dit, l'autre fois, il a organisé quelque chose avec le gouvernement palimé. Il n'a qu'à appeler tout le monde pour les mettre, ça veut dire pour que chacun mette la balle à terre. Que les gens laissent leur ego, les gens laissent de détourner les fonds pour qu'ils leur disent que, attention. Vous savez, en toute chose, pour laisser mon micro et le téléphone, tout ce que nous faisons sur la terre, il y a un retour. Hein. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, ce que vous faites aussi, c'est Dieu qui vous a signé ça, c'est votre ministère, vous avez un compte à rendre. Faisons le bien pour qu'un jour, que Dieu puisse nous bénir. Merci beaucoup.
Merci à vous. Allô? Pas encore d'auditeur. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder le sport, mais apparemment, le sujet Sylvestre intéresse beaucoup d'auditeurs. Allô? Allô?
Monsieur Fousséné.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, et vous?
Ça va, c'est Patrick.
Patrick, on vous écoute.
Pardon, le docteur est toujours avec vous?
Oui, non, il est parti déjà, mais vous pouvez poser la question. Sûrement qu'il vous écoute.
Bon, ok. Au fait, c'est pour savoir si ceux qui pratiquent aussi le bodybuilding, c'est-à-dire la musculature, en utilisant certains produits qu'on appelle la protéine, là, peut avoir des effets néfastes sur l'organisme, même malheureusement, qui n'est pas là. C'est
bon, j'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir de nouveau sur ce plateau.
D'accord. Alors, pour finir là, Monsieur Fousséni, je pense que là où vous êtes, en complicité avec vos collègues qui sont là-bas, il ne faut pas que les gens disent de n'importe quoi sur les chaînes. Pardon, pardon. Le monsieur, le premier intervenant qui a appelé pour dire que le baobab de Kega fait quoi, je ne sais pas sur quelle base il s'est appuyé pour donner cette version. Vous savez, nous sommes un pays laïque. Et l'autre, monsieur Sassgao a l'habitude de le dire. Ce n'est pas dans le même stade-là qu'on organise des prières à la fin de l'année avec le ministre ADG pour la prière nationale, où le chef de l'État même y participe. Ce n'est pas dans ce pays. Mais pourquoi un déjà, bon, il dit, il voit. Pourquoi il n'a pas vu le score d'hier? Pourquoi il n'a pas vu la venue du Togo? Il voit quoi? Non, mais il y a des choses, il ne faut pas qu'on se le dise. C'est vrai, nous sommes en Afrique. Il y a des forces, mais il y a des choses aussi qu'il ne faut pas dire si vous n'avez pas les fondements. De ces choses-là. Merci.
D'accord, merci, monsieur Patrick. Allô? Allô?
Excusez-moi, c'est juste pour rajouter.
Allô?
Oui,
bonjour.
C'est juste pour rajouter quelque chose pour dire que la façon dont on est gouverné au Togo, là, depuis des décennies, a fait que Dieu n'est plus sur ce pays. Tout ce qu'on va entreprendre là, ça va pas aller. Maouba Long va le dire. Et c'est nous qui tout font. Les gouvernements doivent le comprendre que Dieu n'est plus ici.
Hein?
Et c'est pas la malgouvernance, la façon dont on est piétiné de part en part et tout ça là. Dieu est furaxe contre ce pays-là. Et c'est la population qui souffre. Ils n'ont qu'à le comprendre. Que Dieu leur donne un cœur pour alterner. D'accord. Que Dieu donne le, ce cœur-là pour dire que ça va et on va penser à la masse.
D'accord. Merci à vous. Allô? 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 Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
C'est ma voix.
Ok, on vous écoute.
Oui. Je remercie M. Sylvain Béni qui disait qu'on passe de projet en projet, mais on ne veut pas, on ne voit pas la concrétisation. Moi, c'est depuis le projet de PND là que je suis devenu un opposant fin. Hein. Parce que avec la sensibilisation, les gens passaient par là pour créer le trading sous les yeux de l'État. Il fallait l'intervention de l'UOMOA avant que l'État ne sorte son communiqué. Or, les sociétés de trading ont été gardées par les soldats. Et on a passé des messages à la TVT. Après, on dit que les gens sont naïfs. Donc, après ça, c'est pour sombrer encore les gens qu'il y a des projets. Bon, ça passe pour le football, comme les gens en ont abordé. Hier, j'allais dire que on nous faisait savoir que, bon, par exemple, le chef de l'État était allé à Qatar. Il a dit qu'il faut discipliner nos équipes. Alors, je pense qu'il doit y avoir un fora comme ça pour commencer par discipliner les équipes. Comme Damissi l'a dit, quand Tata Avelessi était à la tête, on voyait les résultats. Donc, il faut peut-être un civil à la tête pour qu'on puisse voir aussi les résultats. Parce que je crois que ce cercle n'arrive pas à bien couvrir les yeux, quoi. Et bon, c'est quoi souvent, quand on parle, certains amis journalistes pensent qu'on parle mal d'eux. Non. Imaginez, on nous dit que le chef de l'État marchait sur 3 km. Est-ce que c'est vrai? Donc, le jour qu'on fera des forages, son codé, il n'a qu'à se préparer pour marcher sur 5 km. Hein, vous voyez ça? 3 km, c'est ceux qui connaissent la route, le même palimé, c'est feu rouge à l'hôpital, Carrefour, à Tikoumé. Hein. Ceux qui connaissent la route, Lomé à Gouéla, c'est la Guine, l'entrée campus, 3 km. Il va marcher comme ça, donc il n'a fait que marcher à son côté. Il n'a qu'à nous dire exactement ce qu'il allait faire et de nous parler du populisme. Je vous remercie.
D'accord, merci à vous. Allô?
Et allô?
Oui, bonjour.
Oui, monsieur Stéphane, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur?
C'est monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui.
On vous écoute.
Oui, justement, c'est par rapport au programme du gouvernement. Moi, je crois que le gouvernement est plus dans la communication que dans l'action. Il y a déjà eu combien de séminaires du gouvernement? Mais les résultats ne suivent pas. Le gouvernement, je l'ai déjà demandé au ministre de communiquer. Il travaille avec la population. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait comme communication? Lorsqu'on va à un séminaire aux activités du gouvernement qui concerne tout le pays, on n'invite pas la presse. Mais la presse n'est pas associée. Et on envoie juste des informations qu'on veut, on les crie, on veut saisir ce qu'on veut au peuple. Mais le peuple veut être informé, le peuple veut participer, veut comprendre. Nous voulons vraiment des actions. Et c'est souvent au cours des années et d'élections que vous allez voir des actions sur le terrain. Nous sommes en période de carême. Vous imaginez que à cette période, les activités sont en baisse. Et c'est cette même période qu'on a choisi pour mobiliser nos femmes, nos mamans, à s'inscrire pour une allocation ou je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on veut pour le pays? Vous allez voir des gens qui sont agglutinés dans un milieu, dans l'autre. Mais qu'est-ce qu'on veut pour le pays?
D'accord. Monsieur oui, Kofi, merci. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
C'est Komi. Hein?
Monsieur Komi, on vous écoute.
Moi, je reviens par rapport au séminaire. Ça m'étonne que le chef de l'État s'est retrouvé avec ses ministres. Parce que le dernier rapport de la COVID a mis le travail de tous ces ministres-là à l'effectivité. Et on sent que ce n'est pas ça. Nous dire que après 17 ans, où les gens sont ministres avant que lui n'arrive, il faut encore les recycler pour les 2 ans qui arrivent. On n'a rien. Nous, Togolais, nous devons attendre rien de tout ça. Et vraiment, ça désole. Deuxième chose, quand je prends le foot, moi, je vais m'attarder sur les 11 qui étaient sur le terrain hier. J'ai pas vu du jeu. Les gens prennent le ballon à la défense. Ils n'arrivent pas à mettre soit sur les ailes ou bien construire jusqu'au milieu. Ne serait-ce que l'attitude de Cléguer, le numéro, le dorsal 18 et le dorsal numéro 13, qui ont fait un peu de prouesse en relançant quelques, comment dirais-je, balles vers les défenses adversaires, on aurait même pu égaliser. Ça voudra dire que notre football est à terre. Je tenais à y aller hier pour voir ce que le nouveau entraîneur a pu construire. J'ai pas vu du fond de jeu. J'ai pas vu l'attitude de compatriotes ou bien de quelqu'un qui veut gagner. Même on montre le tableau à 5 minutes de la fin. Vous voyez des joueurs, vous vous dites si c'était des peuplelous ou bien des poupoulis. Vraiment, tout ça là, c'est à revoir. Merci.
Alors, merci, monsieur Comi. Nous prenons un dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour, oui. Canal FM.
Bonjour.
Je vous remercie pour tout le travail que vous faites sur le plateau là-bas.
C'est monsieur?
C'est monsieur Kofi.
Monsieur Kofi, ok, allez-y.
Oui. Ok, bon, j'allais dire qu'un auditeur a bien dit que on se cache derrière les téléphones et puis on dit n'importe quoi. Ah, je suis contre cet auditeur là. Si on n'a rien à dire là, c'est pas la peine d'y réagir quoi. Ceux qui disent qu'il n'y a pas la main sur le Togo, que le Togo a fait quoi, moi je suis contre ça. On est dans un pays et puis on lance les sentences contre ce pays. Hein? Ah, soyons un peu éduqués. Hein? Respectons Dieu quand même.
Bon? D'accord.
Bon service. Hein?
Merci beaucoup, M. Kofi. Alors, donc, c'est fini pour les appels de ce jour. Alors, Sylvestre Kokoubeni, nous n'avons pas eu la chance ou bien l'occasion d'aborder le sport, mais presque tous les auditeurs sont revenus sur le sport, surtout sur le match d'hier. Finalement, la sortie du Togo est quand même difficile. Non, c'est,
oui. Ça fait mal, c'est vrai que moi-même, à un moment donné, j'ai décroché. Mais hier, j'avais quand même un brin d'espoir qu'on fera. On fera quelque chose donc au stade de Kégué. Mais malheureusement que nous sommes presque éliminés parce que avec 3 matchs et 1 point, je ne sais pas par quel miracle.
2 points.
Oui, je ne sais pas par quel miracle que nous allons nous en sortir. Vous savez, lorsque vous regardez un peu dans le rétroviseur, vous regardez un peu l'histoire de ce pays, en 2005, c'était vraiment difficile pour tout Togolais. Et c'est notre qualification à la CAN et à la Coupe du Monde 2006 qui a quand même redonné confiance, qui a redonné du sourire donc aux Togolais. Et depuis ce moment-là, il y a un regain. D'amour pour le football avec les Agassa, les Adebayor, les Abalodossé, tout ça qui véritablement nous ont donné quand même du baume au cœur. Mais depuis un moment, franchement, ce football ne nous donne plus de joie. Et même certains ont manifesté dans ce pays pour que un entraîneur soit remercié. Ils ont été gazés. Vous voyez, ils ont été gazés. On a même voulu procéder à des arrestations parce qu'à un moment donné on disait que celui que vous appelez le sorcier blanc Claude Leroy a véritablement mis le Togo dans le gouffre et aujourd'hui nous peinons donc à nous relever. C'est dommage pour le football togolais. Et lorsque vous voyez tous ceux qui ont appelé, beaucoup ont quand même on sent que ils veulent véritablement qu'on retrouve donc les lettres de noblesse. Donc il revient aux dirigeants donc de le faire. Sauf que je voulais faire une petite précision. Ceux qui pensent que oui, quand les militaires sont à la tête, ça ne peut jamais marcher. Non, c'est au temps donc de Roch Nyasingbe que nous avons été qualifiés pour la CAN et le Mondial 2006. Donc je me dis que ce n'est pas cette fixation en fait sur les militaires, on sait qu'au niveau des militaires, il y a quand même la discipline. C'est vrai que certains aussi n'arrivent pas à se départir, en fait, de leur treillis et de ce qu'ils font, mais on sent qu'il y a la discipline. Mais bon, aujourd'hui, ce que nous voyons, ce n'est plus ça. Hein, ce n'est plus ça. Et quoique, c'est également un militaire, un colonel qui est là. Ce n'est plus ça. Il revient donc à nous de tirer les leçons,
d'accord,
de prendre un certain nombre de dispositions pour que ce football-là puisse quand même nous unir et nous donner plus de joie. Voilà.
D'accord. Abba Sissaka, réaction ?
Oui, par rapport au football qu'on n'a pas pu discuter, ouais, c'est pour aussi en même temps marcher sur Sylvestre par rapport au fait que les gens disent que c'est les civils qui peuvent faire. C'est autant de général nos femmes. Il dit général Memen, paix à son âme, et le colonel Rock Nyasimbe, que le football marchait très bien. C'est lorsque nous sommes revenus de la Coupe du Monde que les civils ont pris la direction de la Fédération de Coréen de Foot. On a commencé par avoir ce genre de problème au niveau de la gestion du football. Donc on laisse tomber le problème des militaires. C'est les militaires, il y a la discipline là-bas. Aujourd'hui, ce qui se passe avec notre football, personne ne comprend rien. Le coach qui est arrivé, Paulo Duarte, a dit qu'il ne comprend rien de ce qui se passe. Parce que quand vous avez vu les gens hier sur le terrain, le public qui est arrivé sur le terrain, c'est par rapport au match qui a été livré à Marrakech contre le Burkina Faso. Celui qui a dit qu'il n'y a pas de fond de jeu, je ne sais pas s'il a bien regardé le match, il y a eu un fond de jeu à Marrakech, et hier également, sur le Akégué, il y avait un fond de jeu, un très bon fond de jeu. Seulement, c'est la concrétisation qui manque. C'est la finition qui manque. Celui qui va marquer le but qui manque. On n'a pas d'attaquant. Sinon, il y a une bonne préparation, il y a une bonne construction, une reconstruction même de l'équipe qui est en train d'être faite. Il faut qu'on cherche à voir les attaquants. Quelqu'un nous a dit qu'on doit chercher la solution du football avant de sortir d'ici. La solution du football se trouve ailleurs. Il faudrait qu'on puisse le trouver et envoyer nos éperviers loin. Par rapport à la qualification, il y a une lueur d'espoir. Seulement que...
Avec des si.
Oui, avec les si, avec les calculs. Parce que nous, au Togo, ici, on est habitué à faire des calculs. Parce qu'il faudrait que quand on rencontre les Eswatini, on bat les Eswatini, et le Burkina Faso bat le Cap Vert. Et on reçoit le Cap Vert en dernier match ici, pour la finale. Donc aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir si le match continue. Je dis, les préparations, l'organisation effective continue, on peut aller loin. Mais ceux qui disent, qui ont des choses pour dire que alternance, faire ceci ou cela, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ailleurs. Et que ce que les gens sont en train de parler, nous sommes dans un état laïque, mais quand les gens parlent aussi d'autres choses, il faut aussi qu'on prenne ça en considération.
D'accord.
Juste pour sortir, je voulais pas dire que c'est vrai que nous avons écouté le vieux Mustapha Bodi sur les réseaux sociaux, qui parle donc de 25 millions. Si on ne donne pas ces 25 millions, on ne va pas gagner et tout. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Moi, ce que je dis, je ne veux pas dire que oui, c'est le vieux qui fait qu'on gagne, c'est le vieux qui fait qu'on ne gagne pas. Je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, ce que je dis, s'il y a un problème d'injustice, c'est-à-dire que si vous avez promis tel montant, tel monsieur, ils ont fait un travail, mais payez la personne. Payer la personne. Si c'est vrai que le monsieur a été intendant, si c'est vrai que le monsieur a accompli un certain nombre de tâches et que préalablement il a été discuté qu'à la fin on vous donnera 25 millions, donnez-lui ces 25 millions. Et puis le problème est réglé. Mais là, vous verrez qu'aujourd'hui, c'est sur ces supputations, on dit, non, si on ne paie pas aux vieux, on ne va pas gagner. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Le vieux a travaillé, payez le vieux, point barre.
D'accord. Voilà. Alors, puisque vous avez le micro, vous allez donner votre carton, s'il y en a.
Non, j'ai pas de carton aujourd'hui. Donc, je souhaite bon courage donc, à tous les Togolais.
D'accord.
Voilà.
Abba Sissaka.
Oui, moi, mon carton, je l'attribue au public sportif togolais. Malgré les circonstances qui a répondu massivement présent à l'appel même du gouvernement, à l'appel même du coach, à l'appel même de la Fédération togolaise de football pour aller supporter et porter loin les éperviers du Togo. Mais qu'ils gardent courage, L'espoir est permis et l'impossible ne sera pas togolais, n'est pas togolais.
D'accord. Merci Abbas Issaka du journal Magnan Libéré, Sylvestre Kokoubeni du journal La Manchette. Nous avons eu Gadiel Tchoyandi également. Merci à vous. Merci au technicien Michel Tomega pour la mise en onde. Michel Tomega pour la mise en onde et puis Jérôme Akoucha pour la mise en ligne. Je suis Fousseni Saïbou. On se retrouve très prochainement. À très bientôt.